Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je voulais d'abord vous dire que j'ai de l'émotion. Je suis heureux d'être parmi vous, très honoré aussi, et un peu anxieux parce que la masse, j'ai quelques... Mais c'est un peu long pour 20 minutes peut-être. Donc, je tâcherai de serrer. Mais d'abord, je veux saluer la mémoire, moi aussi, de quelqu'un qui m'a été très proche, Madame David Père, qui a fondé avec moi. C'était ce qui était une révolution à Nantes, littérature, médecine et société. Et elle m'a introduit un peu au Portugal, et dont elle était la spécialiste. Et avec elle, nous avons fait des choses positives. Voilà. Alors, vous m'avez demandé, je ne sais pas si vous l'avez demandé d'ailleurs, si c'était le Cabanis, parler des Cabanis et des rapports du physique et du moral. Ah là, c'est déjà quelque chose de réducteur, si vous voulez, à propos de l'anthropologie, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est que l'anthropologie. Je ne peux vraiment pas. Il y a des choses comme ça, on en parle, mais définition de l'anthropologie, moi, j'en ai une, mais elle est la mienne, et puis vous pouvez parfaitement la repousser. C'est, pour moi, une littérature mixte qui est la littérature, pour moi, médecine et bien ce qu'on appellerait la philosophie. Ce qui fait que nous avons, et ça continue, cette littérature, elle est cachée quelquefois sous Paris Match ou sous d'autres, mais elle était un peu plus astucieuse à l'époque. C'est quelque chose qui a vécu et qui a porté, supporté l'alliance et le combat, quelquefois, de la médecine et de la philosophie. Et je ne crois pas du tout aux définitions strictes de la philosophie, de l'histoire des idées, etc. Basta. Et donc, il faut d'abord se libérer et penser. Et penser à travers quoi ? À travers des textes. C'est ce que je fais depuis 50 ans. Alors, cet ouvrage, ce type d'ouvrage passionne et a passionné parce qu'il met en relation l'âme et le corps, pour parler en langage dualiste, et pose le problème de l'influence réciproque de l'un sur l'autre. Il faut dire aussi que dans cette fin du XVIIIe siècle, que j'adore, ce genre de littérature est à la mode, ce qui n'est pas sans irriter des esprits rigoureux comme le grand historien de la médecine au XIXe, D'Arenberg. Je ne donnerai pas ici de bibliographie complète, je signale seulement, je pourrais signaler une bibliographie. L'originalité de Cabanis, c'est d'abord de substituer au rapport à mes corps celui du physique et du moral. Le vocabulaire a changé, il est plus général, les entités sont apparemment différentes, on sent une terminologie qui a des allures théologiques et philosophiques, les problèmes sont restés à peu près identiques. L'originalité de Cabanis est de constituer un monisme vitaliste, conçu dans un processus génétique. L'homme n'est pas deux, je cite, le dualisme n'est qu'une distinction méthodologique de philosophe, à proprement parler des facultés physiques d'où naissent les facultés morales, constitue, je cite toujours, l'ensemble de ces mêmes opérations, car la langue philosophique ne distingue ces deux modifications du physique et du moral que parce que les observateurs, pour ne pas tout confondre dans les premières analyses, ont été forcés de considérer les phénomènes de la vie sous deux points de vue différents. L'homme naît, croit, il devient, son devenir ne commence pas à la naissance, mais à la conception, ce qui est tout à fait nouveau. Et c'est quelque chose qui m'a intéressé depuis très longtemps, la question du dualisme et du monisme, qui est quelque chose de capital dans l'histoire des sciences, et des sciences de la physiologie et de la médecine. L'homme est un, Et la seule manière de triompher de l'opposition dualiste, qui n'est que théorique, est de considérer l'homme dans son histoire individuelle, dans une histoire de son espèce, grâce à une perspective génétique et dynamique, en partant de la source où son unité apparaît évidemment constituée. La sensibilité physique est le dernier terme auquel on arrive, dit, écrit Cabanis, dans l'étude des phénomènes de la vie, dans la recherche méthodique de la vérité en enchaînement. Attention au sens de morale, attention au sens de physique. Morale, c'est pas simplement le substitut le moral se substitue à... Vous êtes ma muse. Alors à quoi? Eh bien, à l'âme. Et on peut mieux dire, le moral n'est que le physique, écrit-il, considéré sous certains points de vue particuliers. Cette unité de l'homme fonde l'unité de la science de l'homme, la physiologie, l'analyse des idées et la morale ne sont que les trois branches d'une seule et même science qui peut s'appeler à juste titre la science de l'homme. Cabanis a le double sentiment d'un progrès et de la poursuite d'une tradition. Le progrès, il s'est manifesté dans des entreprises comme l'encyclopédie. La tradition, elle, se trouve dans la formulation du vitalisme antique à travers quelques textes du corpus hippocratique dont je reparlerai. Cabanis a conscience d'être à un moment intéressant où il peut, à travers les découvertes récentes de la physiologie, retrouver les problématiques antiques qui témoignent déjà, comme il le dit, des étroites connexions de l'état physique et de l'état moral. Ce que les anciens ont bien mis en évidence, c'est en quelque sorte la résistance des tempéraments. Quelque chose résiste à l'action mécanique de l'extérieur. Il écrit, ces grands observateurs ne tardèrent pas à s'apercevoir que l'action des corps extérieurs ne modifie que jusqu'à un certain point les dispositions organiques. Quelque chose qui résiste, c'est quelque chose que négligent justement les physiciens, les philosophes qui ignorent la physiologie. Et c'est ce qui constitue ce qu'on peut appeler l'homme intérieur. L'homme intérieur, qui m'a toujours intéressé, et qui fait d'ailleurs le sujet d'un colloque à la Garenne Le Mot au mois de novembre. Ce n'est pas un hasard si c'est un médecin, Steidenham, qui a, selon Cabanis, découvert cet homme intérieur. Si nous en avons le temps, si vous voulez, on en parlera. Doué des mêmes facultés, des mêmes affections, susceptible de toutes les déterminations analogues au phénomène extérieur. Cet homme intérieur, c'est l'homme cérébral. Cet homme interne se double de nous-mêmes. Je cite toujours Cabanis. Cabanis a le sens et le sentiment d'en mettre en valeur l'importance capitale. Ce n'est pas une entité métaphysique, c'est une réalité biologique et c'est la source même de notre sensibilité, écrit-il, donc de notre être. Car du moment que nous sentons, nous sommes. Du moment que nous sentons, nous sommes. Importance, alors, de la viscéralité. Je dirais dans une formule que l'homme intérieur est l'homme viscéral. Cette viscéralité dont les philosophes se sont pas mal moqués, et les philosophes analystes se sont occupés des sensations extérieures. Ils ont laissé de côté, ignoré le sens interne, pour utiliser l'expression que Cabanis discute ailleurs. Condillac, lui, expliquait que les idées et les déterminations morales se constituent à partir des sensations extérieures. Mais il est incapable d'expliquer la genèse de ce qui est comme une pensée confuse, venue des profondeurs de l'être, ou plutôt de l'organisme, et qui est celle de l'impression interne. Moi, je remercie beaucoup, justement, ce flou, la confusion. J'adore ça. Il faut partir de là. Il faut mettre en évidence l'importance de ces viscères qu'on néglige, le bas-ventre, le foie, les organes du sexe. Dans certaines dispositions, écrit-il, des organes internes, et notamment des viscères du bas-ventre, on est plus ou moins capable de sentir ou de penser. Des appétits extraordinaires et bizarres se développent, des images inconnues assiègent l'esprit. Des affections nouvelles s'emparent de notre volonté. Et ce qu'il y a peut-être de plus remarquable, c'est que souvent alors l'esprit peut acquérir plus d'élévation, d'énergie, d'éclat, et l'âme se nourrir d'affection plus touchante au mieux dirigée. Les viscères du bas-ventre, les organes de la génération sont impliqués quelquefois dans la folie, dans les manifestations de la puberté. Pour tout cela, écrit Kabenis, il ne s'est rien passé que dans l'intérieur. Il faut distinguer physiologiquement la sensibilité du moi, contrairement à certains qui ne parlent de sensibilité, qu'au moment où il y a conscience de cette sensibilité. Beaucoup de mouvements s'opèrent à l'issue du moi. Inversement, les viscères, la bile, la digestion, qui ne dépendaient que du moi conscient, l'influencent. Il faut même accepter l'idée d'une sensibilité sans sensation, s'il est vrai que nous entendons par sensation l'impression perçue. On pourrait dire qu'il existe une sensibilité organique non consciente qui préconditionne la sensibilité consciente et donc la pensée. Le rapport entre la grandeur des organes est essentiel. Que peut mettre en évidence l'anatomie pathologique ? Le juste rapport entre le volume des organes et leur énergie respective constitue l'excellence de l'organisation. Cette importance de la viscéralité, du poumon pour les sanguins, du foie, rejoint une caractérologie, une psychopathologie des antiques. Je dirais qu'il faut faire attention à ce genre de mesure des organes internes, parce que nous sommes là voisins de Bichat, qui est quelqu'un d'absolument génial, et qui lui aussi fait attention aux symétries, à la dissymétrie et à la valeur donc de cette dissymétrie à l'intérieur qui fait que la pensée poétique, elle est de l'intérieur. Mais lisez ça, c'est magnifique. Le bilieu, et cela ne saurait nous étonner, intéresse particulièrement Kabenis. Et supposons chez le bilieu quelques légers changements morphologiques. Je vais passer doucement, n'est-ce pas ? Parce que, regardez. Quelque chose qui me paraît très important, c'est l'influence de gens comme Aristote, notamment du problème 30 du pseudo-Aristote, mais j'y reviendrai pas, mais qui s'est vraiment impliqué dans la philosophie de ce genre, mais de manière que certains trouvèrent provocante, Kabenis insiste sur la viscéralité du cerveau, ce qui est nouveau. Pour se faire une idée juste des opérations dont résulte la pensée, dit-il, il faut considérer le cerveau comme un organe qui fabrique, qui produit de la pensée, comme le foie produit de la bile, etc. Le viscère entre en action, il agit sur elle, je passe. Autre chose très importante, c'est l'apparition de l'importance de la vie fœtale. Tout ce que nous avons déjà dit du rôle de la viscéralité montre que si l'on nous permet cette formule, l'homme intérieur est en quelque façon l'homme antérieur, c'est-à-dire intérieur à cette sollicitation, ces excitations du monde auxquelles les philosophes de l'analyse limitent notre formation. Or, avant même que de naître, nous avons une histoire. Kabenis se fonde là, pour la notion de résistance, sur des études de Tracy et l'importance qu'il donne à la notion de résistance. C'est la résistance au mouvement qui donne la conscience du moi. Le fœtus, a écrit Kabenis, a déjà les premières impressions de résistance et la conscience du moi. Il exécute des mouvements bornés et constants, et Kabenis ajoute ce qui nous paraît fort intéressant, les remarques suivantes. Quant à la conscience du moi, on peut croire qu'il lui suffirait pour l'acquérir d'éprouver des sentiments de bien-être et de malaise. J'avoue que pour recevoir la sensation de résistance, écrit-il, la présence des corps extérieurs ne paraît pas indispensable. On peut se passer de ça, puisque le poids de nos propres membres et la force des muscles nécessaires pour les mouvoir, qui sont l'un et l'autre très variables, ne peuvent manquer de mettre le moi dans cette même situation, d'où l'on sait que résulte pour lui l'idée de notre corps. Et Kabenis nous décrit ce que le XVIIIe siècle finissant a défini comme la synesthésie, dont j'aurai peut-être l'occasion de parler tout à l'heure, qui est à ce moment la question de la connaissance de soi, de l'intérieur de soi, et qui est sous la direction de Ryle, qui a donné un texte latin médiocre, mais qui est qui essaie de constituer ce qu'est à l'intérieur de notre sensation et la sensation de nous-mêmes. Il faut lire ça, mais j'ai essayé de le traduire du latin. C'est tellement le latin est tellement fluide que la sensation sensus, ça veut dire tellement de choses. C'est ce que le conseiller, je ne sais qui aristotélicien, qui disait traduisez Aristote, maintenez-le en grec, parce qu'en latin, ou traduisez-le en latin, ça vous aidera, hein, parce que bon, sensus, sensation, sentiment, etc., tout ça, bon, c'est là qu'on voit la faiblesse du latin. Alors, pour revenir au fœtus, son vécu n'est pas rien. Le fœtus n'est pas une table rase. Et contrairement à la statue à laquelle Condillac propose l'odeur de rose, l'individu qui naît n'est pas rien. Il a un passé biologique et en quelque façon un moi. C'est très moderne tout ça. Et ainsi Cabanis a le temps d'avoir mis en évidence un système de penchant, de détermination formé sur des impressions à peu près étrangères à celles de l'univers extérieur. Contre l'analyse condillacienne, Cabanis écrit que la bonne analyse ne peut s'isoler ne peut isoler les opérations d'aucun sens. Je prends le trop maintenant, non ? Pas le galop encore, mais le trop. Alors, la pensée idéale. Il y a des choses que je vous dirai malgré vous. Alors, la pensée idéale de l'individu que suppose Condillac, par la combinaison successive des sens qu'il attribue à sa statue, manque absolument la réalité physiologique. Au principe de la combinatoire, Cabanis oppose celui de la sympathie. Ça aussi, c'est magnifique. Ce sont des concepts nouveaux, neufs. Hein. Et la combinatoire, c'est de la physique ou de la géométrie. Condillac, c'est de la physique ou de la géométrie. La sympathie, c'est de la vie. Mais ça n'empêche pas, n'ayez pas peur, je tournerai. Tradition et nouveauté, c'est quelque chose qui aussi marque la pensée de Cabanis. Il n'est pas question de nier de l'Antiquité. Et il faut parvenir à faire fonctionner les questions nouvelles sur les doctrines antiques. Par exemple, l'irritabilité du muscle par Haller a été donnée une question nouvelle, l'électricité, le phosphore, l'attraction élective, tout ça, ce sont autant de concepts qu'il faut étudier. Après avoir exposé ce qui me paraissait, une fois bien prononcé, la ligne directrice des rapports, cela bien entendu de manière trop brève, il faudrait consacrer la deuxième partie à mettre en valeur le rôle de la pensée antique chez Cabanis. Bon, c'est un excellent helléniste, il a traduit Homère, il a évidemment, s'est intéressé de très près au corpus hippocratique. Je vais aller à quelque chose qui sera la fin, FIM, de ma part.
Vous avez encore 10 minutes.
10 minutes?
Oui.
Oh, elle me dit ça. 10 minutes, mais c'est un siècle. Alors, écoutez, ça va me permettre d'ailleurs de chatouiller quelques gens comme Moravia, etc., qui ne s'intéressent presque pas à la pensée hippocratique. Et les habitudes morales, vous savez que le 9e rapport, qui est le fondement vraiment du rapport de Cabanis et de R. Oelieu, qui est le grand texte qu'on pourrait justement ramener dans le panier de l'anthropologie. C'est la question qui a... Il y a vraiment deux parties importantes. Il y a la question des macrocéphales et la question du rapport entre ce qu'il appelle, lui, ce qu'il appelle le le climat sur les habitudes morales. Un climat, il dit, faut bien faire attention, ça veut dire non pas la longitude et la latitude, ça veut dire tout ce qui est, qui entoure, plus ou moins petit, tout ce qui entoure les gens. Et l'autre habitude n'est pas à prendre au sens d'habitude comme ça, mais au sens classique en médecine, c'est-à-dire de l'état, habitus. C'est important aussi de dire ça. Alors, quant aux habitudes morales, écrit-il, il faut les entendre comme la série ordinaire des affections ou de ses penchants, de ses idées ou ses opinions, de ses déterminations ou des actes qui résultent de ses opinions et de ses penchants. Je cesse, j'arrête la lecture pour dire comment, pourquoi ce passage qui est le chapitre 14 de R. Oelieu est si important dans l'histoire des sciences. Et c'est la question qui est posée, c'est la question du rapport entre nomos et physis, c'est-à-dire physis, c'est la nature, tout ce qui est de données naturelles, et nomos, ma foi, bien malin qu'il le traduirait, c'est en fait la norme, mais ce qui est la limite, ce qui est, si vous voulez, tout ce qui n'est pas nature, en principe. Nomos, c'est la direction, c'est la loi, c'est tout ce que vous pouvez mettre là-dessous. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons cette tribu mythique, les macrocéphales, c'est-à-dire les grosses têtes, les grandes têtes. Ces gens-là, à cause d'une valeur qu'ils donnent à cet état, modèlent, comme les ours modèlent leurs enfants, la tête pour la faire longue, entouré de bandeaux pour la faire longue. Et ça donne la noblesse. Mais à un certain moment, l'héritage de ça s'est fait sans qu'on opère ça. Tout d'un coup, ils se sont mis à naître avec des têtes longues. Et puis, le temps passant, ça a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a une phrase qui est géniale, « Effusis to nomo sum baletai ». La nature vient en aide à la culture. Et ça, cette phrase est scandaleuse pour un grec qui, par exemple, a vécu dans l'opposition sophistique. Il ne peut pas y avoir de rapport entre la nature et le droit. Il ne peut pas y avoir de collaboration. Cette collaboration, eh bien, elle va se transposer chez tous les types intelligents et la marque la saisie à la fin. Vous voyez ? Ces petites choses qui se promènent comme ça sont de toute première importance dans l'histoire, non pas des idées, mais l'histoire des faits. Alors, troisième partie, et c'est la fin, rassurez-vous. C'est la fin, enfin, oui. Nous avons alors autre chose. On a souvent reproché à Cavani son style vague. Le style très important dans l'histoire de la médecine. Et le maître de la médecine, du point de vue du style, c'est Hippocrate. Hippocrate est puis soutenu par Galien. C'est un écrit, Vénérais Cabanis, Tracy et Jean-Baptiste, je lisais souvent Cabanis dont le style vague me désolait. Et je rappelle que ce sont les médecins qui parlent. Et je vais passer à la fin parce qu'on ne peut pas voir, ces choses-là. C'est les paragraphes 23 ou 24, et à la suite d'AEL, c'est-à-dire O et lieu. Pardon. C'était un bon cru. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? C'est le moment où, vraiment, Cabanis parle de l'implication, la transformation de la force du climat sur l'individu. En ce climat, c'est en fait, il propose une transformation et une unification des gens qui sont devant vous. Par exemple, supposez que vous soyez dans les forêts du Nord, vous en ressembleriez tous à, nous ressemblerons tous au même. J'ai même eu quelquefois dans un lieu où je faisais, je parlais de ça, tout d'un coup j'ai vu que tout le monde effectivement se ressemblait. Et comme j'étais en Corse, je me suis tu très vite de peur de voir des accidents. Bon, alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais la deuxième chose, c'est le rapport entre dans la géographie, c'est-à-dire l'Asie et l'Europe. Pour la première fois, et je dis ça aux géographes et aux historiens, qu'il a été question d'une définition de l'Europe, c'est dans Roelio par Hippocrate. Et quand je lis, c'est en 1400, etc., que pour la première fois le mot Europe se fut... Non mais alors, un peu de distance. Et c'est la question, comment se fait-il, qu'est-ce qui fait la différence entre l'Asie et l'Europe? Mais l'Asie est le pays du mélange, le pays de l'unité, le pays du climat unique, où les gens sont contents, heureux, etc. C'est le lieu du bonheur. Mais ce lieu du bonheur, il est dangereux. Donc en face, il y a l'Europe. L'Europe, elle, est réveillée, c'est vraiment le mot de l'éveil, Guéraud, réveillée par le froid, le chaud, etc. Et c'est ce qui fait la pensée. Donc l'Europe souffrante par rapport à la... va donner, on pourrait dire en gros la philosophie, la pensée, si vous voulez. Fallait bien terminer par ça. Mais c'est quand même un texte qu'il faudrait lire ensemble et commenter. Je ne crois qu'à l'explication de texte. Bon. Merci beaucoup.
Merci, monsieur.